1901 sur 90, c'est la radio des assos. Une émission proposée par l'AGLCA, Maison de la vie associative de Bourg-en-Bresse, avec l'aide précieuse de Radio B. Chers associatifs, bonjour. C'est un vrai plaisir de vous retrouver en ce mois de juin 2018. L'été est là, officiellement depuis quelques jours, et avec lui de longues soirées autour de plats à base de viande grillée à refaire le monde. Je vous propose donc une émission politique internationale au cours de laquelle nous aborderons la question palestinienne. Au sommaire de cette émission, l'interview associative avec Denis Page, secrétaire adjoint de l'association France-Palestine Solidarité, et Claude Bardet, président de cette même association. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Nous aborderons ensemble l'actualité culturelle de ce pays, mais aussi humanitaire et politique. Dans le briefing des bénévoles, nous parlerons de nouvelles formes de gouvernance associative plus démocratique et participative. Et puis nous terminerons par quelques actualités de l'AGLCA avec la rentrée des assos et une question d'égalité femmes-hommes. 1901 sur 90, on vous présente l'assaut du jour. Vous le savez, quand une association débute, elle commence par sa déclaration en préfecture. Alors, Denis et Claude, je vous propose qu'on puisse faire la déclaration en préfecture de l'association France-Palestine, du groupe local de l'Ain. Donc, son nom, le groupe local, depuis quand un petit peu il existe et puis ce que vous y faites, voilà.
Le groupe local de l'association France-Palestine Solidarité existe depuis 2002, après une réforme entre guillemets de l'association au niveau national qui est née de la fusion de deux associations en 2001. Le groupe local s'est créé en 2002, pratiquement dans la foulée.
Peut-être quelques temps forts de l'association au cours de l'année ?
Eh bien, au cours de l'année, je dois dire que le temps le plus fort a été un temps assez long puisque c'est la longue lutte pour essayer de faire libérer Salah Hamouri, dont la grand-mère était une habitante d'Évennes à Bourg-en-Bresse, et qui, trois jours après avoir obtenu son diplôme d'avocat en fin août 2017, a été incarcérée et mise en détention administrative à Jérusalem.
Alors, je vous propose qu'on puisse aller un peu plus loin dans, pour que vous puissiez nous raconter cette aventure dans la suite de l'émission. Je vous propose qu'on puisse poursuivre par ce qu'on appelle dans 1901 sur 90 l'Assemblée Générale. Alors, c'est le moment où on parle un peu plus du projet de l'association. Donc, vous avez parlé voilà, d'une action sur cette année, faire libérer donc une personne qui s'appelle Salah Hamouri. Quel est le projet voilà, du groupe local France-Palestine Solidarité, et puis de l'association en fait aussi à l'échelle nationale, puisque c'est aussi une association nationale.
Oui, d'une manière générale, l'objectif, l'objet social, on pourrait dire, de l'association, c'est développer la solidarité avec le peuple palestinien en France. Alors ça passe par trois axes principaux, j'allais dire. Le premier qui est un axe d'information, d'une part, parce que d'une façon générale, les Françaises et les Français sont assez mal informés sur ce qu'est la réalité de vie du peuple palestinien. Le deuxième axe, c'est un travail, on pourrait dire, de lobbying politique, de plaidoyer politique pour essayer de faire bouger les lignes politiques en France par rapport à la question palestinienne. Et puis le troisième axe, c'est de développer des soutiens concrets, précis, qui passent soit par le soutien à des projets de développement et des projets humanitaires en Palestine, soit par exemple des aides à des enfants et des familles par le biais de ce qu'on appelle les parrainages d'enfants. Voilà à peu près les trois axes principaux de l'association qui après se déclinent par des actions un petit peu plus précises et plus concrètes.
Donc sur le groupe local de l'Ain, ça représente voilà, combien de personnes? Quelle est un peu la vie de l'association? Vous vous retrouvez toutes les semaines, tous les jours, tous les mois voilà.
Alors le nombre de personnes, je crois qu'on a 120 adhérents à peu près. Parmi les adhérents, il y en a beaucoup qui sont très peu actifs, simplement ils reçoivent les informations qu'on leur envoie, soit par Internet et trois fois par an par notre journal que nous publions localement, ainsi que des informations en journal national. Il y a évidemment une petite équipe qui est active donc, en continu. Alors les rendez-vous réguliers, quelque chose qui est vraiment important localement à Bourg, c'est tous les premiers vendredis du mois, une veille silencieuse qui a lieu sur la place de la mairie à Bourg-en-Bresse, qui regroupe toujours un bon nombre de personnes, entre 40 et 60 personnes, qui font un cercle avec des banderoles qui citent donc la solidarité avec la Palestine, avec les Palestiniens. Voilà, ça c'est ce qui a lieu donc chaque mois. Il y a aussi un événement qui regroupe pas mal de personnes solidaires, adhérents ou non adhérents, et qui est annuel, c'est le repas palestinien organisé à la fin novembre chaque année dans une salle des fêtes, en ce moment c'est à Saint-Rémy, et où dans une grande convivialité on mange et aussi on s'informe, il y a des expositions, il y a des présentations de témoignages pour des voyages en Palestine.
Alors, une question sur le projet associatif, voilà d'où ça vient un peu cette volonté pour les adhérents d'agir de façon solidaire pour ce peuple-là particulier, sur cette question-là particulière, parce que voilà, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de peuples voilà, dans le monde. Comment c'est arrivé sur ce sujet-là précisément, une mobilisation sur Bourg-en-Bresse ?
Je crois que ça dépend beaucoup des personnes. Pourquoi telle personne est... Alors que dans le monde, il y a beaucoup d'autres problèmes politiques ou humanitaires. Pourquoi des personnes choisissent la Palestine ? Il peut y en avoir, ça peut être un côté religieux qui peut intervenir, un côté vraiment politique. Bon, si je cite mon témoignage personnel... D'une part, j'ai un oncle qui est mort en déportation et qui était résistant au maquis. Donc le mot résistance, on le retrouve. Et c'est sans doute quelque chose qui a pesé lourd dans mon cas personnel. Mais bon, je crois que ça dépend vraiment des personnes. Et puis bon, notre action, c'est quand même d'essayer de faire boule de neige, de faire connaître ce combat. J'ai aussi un grand copain, un ami de 50 ans qui militait avant moi et qui m'avait un petit peu mis sur le chemin.
Donc une histoire familiale et aussi de militance qui permet de se rassembler. Oui, Claude ?
Oui, Denis l'a évoqué, je pense que les gens qui militent pour la cause de la Palestine, c'est des histoires, c'est des histoires différentes qui sont liées, par exemple, comme Denis l'a dit, à la question de la résistance. Il y a des gens qui avaient adhéré au début de la création d'Israël, au projet... présenter le projet socialiste, les kibboutz, etc., et puis qui sont allés sur place et qui, en allant sur place, se sont rendus compte de la réalité, de ce qu'étaient les conséquences de la création d'État d'Israël pour les Palestiniens et qui, du coup, sont devenus militants de la cause palestinienne pour ça. Ça ne veut pas dire des militants contre Israël, mais des militants pour la paix et la justice pour les Palestiniens. Il y a des gens qui sont allés, effectivement, Denis l'a dit, plus pour des motifs religieux, puisque la Palestine, Jérusalem en particulier, c'est pas des lieux neutres sur le plan religieux. Donc il y a des gens qui sont allés là-bas pour des motifs plus religieux et qui ont aussi découvert la réalité sur le terrain. Et puis il y a des gens qui font cette démarche sur l'aspect plus politique de soutien à un peuple qui lutte et qui résiste pour obtenir ses droits fondamentaux. Et on retrouve des gens qui ont milité pour le peuple algérien et qui aujourd'hui militent pour le peuple palestinien, qui au passage ont milité pour le peuple du Sahara occidental, etc., qui sont plus dans une logique de politique de soutien à la résistance politique.
Donc, Une des actions que vous avez fait ici en France, ouais, c'est de pouvoir lutter pour la libération d'une personne, Sarah Amoury. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement quelle a été cette aventure sur cette année, pourquoi cette personne a été emprisonnée, et puis comment on peut aider une personne emprisonnée depuis Bourg-en-Bresse?
Donc Salah Amoury, j'allais dire pour nous, et j'allais dire nationalement, c'est pas une affaire nouvelle, puisque Salah Amoury est incarcéré actuellement, mais il avait déjà été incarcéré et a passé 7 ans en prison, donc de 2005 à 2012, si je ne me trompe pas. Et c'est un cas parmi beaucoup d'autres, puisque la question de l'incarcération arbitraire impacte très très fortement les Palestiniens et les Palestiniennes, surtout les Palestiniens, mais aussi les Palestiniennes. Alors ça là, le cas un peu particulier provient du fait que, Denis l'a dit tout à l'heure, sa grand-mère est originaire d'Évennes. Mmh. Et sa mère donc est partie en Palestine il y a très longtemps pour des raisons professionnelles, pour enseigner le français, et puis elle a épousé un Palestinien, elle est restée là-bas, elle a créé sa famille là-bas, mais elle revenait régulièrement voir sa mère au Venn. Et il y a un moment, donc elle est venue en 2005, elle a expliqué à des gens des Venn que son fils était incarcéré sans raison, etc. Et il y a des gens qui se sont émus pour cette situation parce qu'ils ont rencontré Denis Amoury et qu'ils en ont parlé, mais ils auraient pu parler de quelqu'un d'autre, sauf que là il y avait un lien avec Bourg-en-Bresse. Et du coup, par le réseau de la FPS, le cas de Salah Amoury a été porté, et il s'était créé à l'époque un comité de soutien à Salah Amoury qui avait abouti à l'engagement du président de la République à l'époque, Nicolas Sarkozy, pour obtenir sa libération dans le cadre d'un échange de prisonniers avec Gilad Shalit, un Israélien qui était prisonnier côté palestinien et qui avait été libéré. Et il se trouve que Salah a été à nouveau arrêté au mois d'août cette année dans le cadre de ce qu'on appelle la détention administrative, c'est-à-dire que les personnes sont arrêtées et on ne leur donne ni le motif de leur arrestation ni l'occasion de se défendre. Puisqu'il n'y a pas de motif, on ne peut pas se défendre contre ce motif. Il n'y a pas de réel procès. Et donc, on a recréé à nouveau un comité de soutien au niveau national et au niveau de Bourg-en-Bresse.
Donc, votre action correspond principalement à pouvoir militer auprès de l'État français pour qu'il puisse travailler avec l'Israël pour pouvoir accéder à la libération de ce prisonnier.
Absolument.
1901 sur 90, le briefing des bénévoles pour aborder un sujet d'actualité. Alors, sans transition, pour ce mois-ci, je vous propose d'aborder le sujet des nouvelles formes de gouvernance. Vous la connaissez sûrement, cette réunion de bureau un soir de semaine tardif, malgré tous vos efforts, personne ne voudra prendre la place de présidente, laisser libre ou celle de trésorier. Une idée traverse alors l'assistance. Pourquoi ne pas fonctionner sans présidence, par exemple? Ce n'est pas possible? Eh bien si, dans la loi de 1901, rien n'oblige d'avoir un poste de président. C'est un responsable légal qu'il faut, c'est-à-dire quelqu'un qui représente l'association auprès des autorités et de l'administration. Mais alors, comment fonctionner différemment? Il faut d'abord regarder vos statuts, ce sont eux qui vous contraignent. Le nouveau fonctionnement que vous adopterez impliquera peut-être de les modifier. Première chose à faire, lister le travail à effectuer, se répartir les tâches. Deuxième chose, choisir un mode de prise de décision qui permette d'inclure le maximum de parties prenantes. Vous avez différents modes. Autocratie. Le président ou la présidente décide seul, cela permet d'être efficace, mais les membres s'en vont les uns après les autres car ils ont le sentiment d'être inutiles. Le vote. Le vote est utile pour entériner une décision largement partagée. Mais quand les avis sont divisés, on arrive à un camp vainqueur et à un camp perdant. Cela crée souvent deux clans dans l'association et une ambiance qui n'est pas des plus faciles. L'enjeu des deux systèmes suivants est de permettre que la décision soit un maximum partagée et implique un maximum de membres. C'est une manière d'impliquer le plus grand nombre dans le projet de l'association et de donner envie de la rejoindre. Vous avez le consensus. Il laisse quatre choix à chacun. Acquiescer, s'abstenir exprimer une réserve sans pour autant bloquer la décision, ou alors bloquer la décision. Ce choix doit être motivé. Dans ce cas, l'ensemble du groupe cherche des solutions à débattre et on recommence ce principe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de blocage. Et le consentement, c'est une décision prise sans qu'il n'y ait aucune objection argumentée qui soit opposée. Cela demande un fonctionnement en cercle, cercle 1, cercle 2, et puis chaque membre appartient au moins à deux cercles. Et ces cercles sont interconnectés entre eux avec une personne élue pour représenter chacun des cercles. Le plus pratique, c'est l'élection. On pratique aussi l'élection sans candidat, c'est-à-dire que le groupe choisit lors d'une discussion ouverte la personne la plus à même d'occuper la dite fonction. La question est donc de savoir quelles sont les décisions qui sont prises au consensus ou au consentement et quelles sont celles qui ne le sont pas, afin de jongler entre efficacité et prise de décision partagée. A priori, les décisions qui relèvent du consensus ou du consentement sont les décisions qui ont le plus d'enjeux, ce sont celles qui sont d'ordre stratégique. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir à l'AGLCA, notamment le 16 octobre à 19h pour une formation spécifique sur le sujet. Là !
المغربيات بتنزل درجة الحرارة من تم مع أولاد الجارة كلنا هيك وادي حلوة بستان وبرضو العين نتقسم فرقتين منضل وحدة ايد وحدة مش أولاد عم إخوة يا واد اهدى بدناش طوشة حقك علينا وهاي بوسة
خلص امسحها بهاللحية
قرب الليل حرك جريك نلعب شوي قبل ما يبلش نجيبك عقبال ما العب غماي احط راسي على الحيطه واغمض عيني واحد اتنين حوق افتح والمستوطنات يخفوا
On se retrouve dans l'émission 1901 sur 90 sur Radio B avec Claude Bardet et Denis Page, membres du groupe local de l'Ain de l'association France-Palestine Solidarité. Alors quelques mots d'explication sur la piste musicale que nous venons d'entendre.
Alors le groupe que nous venons d'entendre s'appelle Dandara. C'est un groupe d'un quartier de Jérusalem Est, quartier qui s'appelle Silwan. Une de nos militantes, très très régulièrement en voyage à Jérusalem et qui a des liens personnels avec des habitants de Silwan, a fait venir 2 années consécutives ce groupe de jeunes rappeurs, vraiment très jeunes, hein, garçons et filles, en 2014 et 2015. Ils ont fait 2 fois un séjour d'une semaine ou 10 jours. Et donc, ils ont fait des concerts à Bourg. Je me souviens avoir accompagné ce groupe à Paris avec Nadine. Et puis, je me souviens d'un concert qui avait lieu à Grigny. Hein. Ce qui était intéressant, c'est que la 2e année qu'ils sont venus, ils ont vraiment pu se former en tant que musiciens-rappeurs avec des professionnels, hein, avec aussi des équipements professionnels, ce qui était quand même très important pour eux.
1901 sur 90, on vous présente l'assaut du jour. Alors vous l'avez entendu, on aborde un sujet qui a et une association qui joue un rôle important sur un sujet de société. Alors vous agissez à l'international, donc comment on arrive à travailler avec le pays sur place? Pendant la pause musicale, vous m'avez dit qu'il y avait un groupe sur place. Voilà, comment le travail se fait au quotidien?
Alors, ce qu'a dit Denis par rapport à Dandara met en évidence l'importance d'une des choses qu'on essaie d'organiser, c'est le fait que des gens de chez nous aillent en Palestine pour découvrir la réalité. C'est comme ça qu'on a connu le centre de Silwan et le groupe de Dandara. Et c'est, pour nous, c'est quelque chose d'important d'organiser des voyages en Palestine pour que des gens se rendent compte. Parce qu'on entend parler à la radio, à la télévision, on lit des articles. Alors, quand on gratte un peu, on voit que c'est un peu différent de ce qu'on nous montre par devant. Mais tant qu'on n'est pas allé sur place, je crois qu'on ne peut pas s'en rendre compte. Et en particulier, ce dont on ne se rend pas compte, c'est de la vitalité, de la vigueur, de la force de vie des Palestiniens, de l'envie de résister et de garder leur terre, qu'on essaye en permanence, encore aujourd'hui, de leur prendre. Et donc la qualité de l'accueil qu'on a là-bas. Donc c'est un des aspects importants. Et le deuxième aspect aussi sur lequel je voulais revenir par rapport au groupe Dandara tout à l'heure, c'est que nous, on a envie de montrer que les Palestiniens ils vivent difficilement, mais que c'est un peuple vraiment qui a envie de vivre et de résister, et qu'une des formes d'expression de cette envie de résister, c'est la culture. Et donc on essaye aussi de faire connaître chez nous la richesse culturelle des Palestiniens. On le fait souvent, pas tout seul, dans le cadre de ce qu'on appelle à Bourg-en-Bresse un collectif Palestine 01 avec d'autres associations, des partis politiques, etc. Et plusieurs fois, on a organisé des concerts. On en a eu un très récemment, la MJC, qui était un moment très fort et qui pour nous est important pour développer, pour renforcer un petit peu l'envie de s'engager des militantes et des militants. Et puis ça nous paraît important de faire connaître les différentes formes d'expression culturelle des Palestiniens. Je me souviens l'année dernière d'une soirée à Simmonds-sur-Suran où 4 jeunes Palestiniens sont venus chanter des chansons françaises qu'ils apprennent dans le cadre de l'Alliance française à Bethléem. Voilà, il y a tout cet aspect-là qu'on a aussi envie de faire connaître. Et puis sur comment aider sur place, par exemple les groupes locaux de la FPS Rhône-Alpes depuis plusieurs années soutiennent des projets en Palestine, dans la vallée du Jourdain en particulier, qui est une des zones les plus difficiles, les plus soumises à la colonisation israélienne. Et actuellement, ça passe par l'aide à la rénovation de maisons dans la vallée du Jourdain, pour lesquelles des gens participent. On essaye de collecter un peu des fonds. Les gens participent financièrement à ce projet.
Alors, mais finalement, on a parlé de votre action, mais Quel est le fond du problème ? Voilà, on est sur un conflit qui dure depuis longtemps. Pour vous, quel est vraiment le fond du problème ? Parce que c'est une question qu'on n'a pas abordée encore, en fait.
En faisant un résumé très bref et sans remonter trop loin dans l'histoire, le point nodal, c'est en 1947, l'ONU présente un plan de partage de ce secteur avec un territoire pour Israël, pour un État d'Israël à créer, et un territoire pour un État à créer pour les Palestiniens, pour les Arabes du pays. L'État d'Israël a été créé un an plus tard, en 1948, et pas aucun État palestinien n'a pu être créé. Et de plus, l'État d'Israël, petit à petit, suite à un certain nombre de guerres, comme celle de 67 par exemple, a pris de plus en plus de territoire, ce qui fait que maintenant, la superficie pour le potentiel État palestinien est devenue et s'est réduite comme peau de chagrin.
Alors, on entend actuellement à la radio qu'il y a, des affrontements. Vous, sur l'actualité vraiment très proche, vous avez quelques éléments d'explication peut-être à nous donner pour nous qui sommes un peu plus loin de ces questions-là.
Oui, alors moi je dirais deux, trois choses là-dessus. Vous dites affrontement. Quand les mots sont très piégés. Quand on dit affrontement, on considère qu'on a deux groupes de même importance, de même niveau qui s'affrontent. Là, on n'est pas dans cette situation-là. La situation que vivent les Palestiniens, c'est qu'il y a un État qui occupe leur territoire et qui, tous les jours, par différents moyens, essaye de prendre, Denis l'a dit, de prendre toujours plus de terres. Et donc, en face de ça, on a des gens qui résistent. Ils ne s'affrontent pas, ils résistent pour essayer de garder encore un petit peu de ce qu'ils ont. Et donc, par rapport à ça, deux exemples. Le premier, on parle beaucoup actuellement des marches du retour à Gaza. Pour comprendre ça, il faut comprendre d'une part que Gaza est un territoire qui fait 40 km de long, 10 km de large, qui est complètement encerclé, contrôlé par Israël, du côté terre par des barrières de sécurité extrêmement bien gardées, du côté de la mer par des bateaux militaires qui empêchent les pêcheurs de Gaza de sortir, et dans l'air, ils ont détruit l'aérodrome de Gaza depuis longtemps, et il y a des avions et des drones qui tournent en permanence pour les surveiller. Donc c'est un État réduit où il vit 2 millions de personnes, dont plus de la moitié sont des gens qui avant vivaient ailleurs en Palestine et qui, suite à différentes guerres, se sont réfugiés à Gaza. Et donc, dans marche du retour, il y a la notion de retour, c'est-à-dire que les gens, ils veulent retourner chez eux parce que ils en ont été expulsés il y a longtemps. Donc, on est bien dans une démarche de résistance qui, d'ailleurs, sur ces exemples-là, est une résistance totalement pacifique, non violente. Les gens n'étaient absolument pas armés et ils se sont fait tirer dessus comme des lapins par l'armée israélienne qui était postée devant la frontière et qui les empêchait d'approcher même de la barrière de sécurité, de la barrière qu'ils ont construite soi-disant pour se protéger, mais en tous les cas pour enfermer les Palestiniens. Pour Jérusalem, on est un petit peu dans une autre logique, mais qui est la même logique. C'est-à-dire que Jérusalem, au départ, était partagée en deux. Il y avait un côté ouest pour les Israéliens et les côtés est pour les Palestiniens. Dans tous les cas, c'était une situation réelle. Ce n'était pas une situation de droit, mais c'était la situation réelle. De plus en plus, les Israéliens installent des colonies du côté palestinien. Délaissent complètement les quartiers palestiniens comme Silouane où il y avait les jeunes de Dandara, où il n'y a aucun service public ni rien du tout. Et les Palestiniens, eux, veulent garder leur place à Jérusalem et les Israéliens veulent les faire partir. Et Jérusalem est un enjeu extrêmement important sur place. Et dans ce cadre-là, Jérusalem, il est pas du tout reconnu par la communauté internationale comme la capitale d'Israël. Jérusalem aurait dû avoir un statut particulier d'être dans le plan de partage. Il était ni dans le côté israélien, ni du côté palestinien. Et de fait, les Israéliens l'ont annexé. Et la communauté internationale ne reconnaît pas ça. Et le geste de Trump de déplacer l'ambassade américaine à Jérusalem est une véritable... C'est plus qu'une provocation, quoi. C'est un soutien à cette démarche de colonisation qui est absolument insupportable pour nous, bien sûr, mais pour les Palestiniens, parce que c'est vraiment toucher à quelque chose qui est essentiel pour les Palestiniens. Jérusalem, c'est quelque chose d'essentiel pour les Palestiniens, au sens de que ça représente pour eux la capitale de l'État qu'ils veulent créer.
1901 sur 90, le mot de l'invité du jour. Alors pour terminer cette émission, une petite question à chacun d'entre vous. Là, vos motivations, comment on arrive à être responsable d'une association aussi militante, aussi politique, et puis aussi, est-ce que c'est pas quelque part compliqué de porter un combat politique, parce que ça veut dire aussi sûrement se faire attaquer par des opposants. Alors, je ne sais pas lequel veut commencer.
Moi, je dirais que si j'ai choisi cette association et ce combat plutôt que d'autres, c'est parce que j'ai tendance à être de tempérament, de douter des choses, mais pour là, en l'état, il n'y a vraiment pas de doute. C'est tellement évident qu'il y a une violence de l'État d'Israël, du gouvernement actuel d'Israël, à l'égard des Palestiniens. Il y a une injustice aussi tellement évidente que pour moi, c'était ça qu'il fallait choisir.
Oui, moi, c'est une histoire un petit peu personnelle. Il se trouve que quand j'étais étudiant, j'ai co-animé avec une Libanaise un espace d'alphabétisation, on va dire. Et à cette occasion, elle m'a expliqué ce qu'était la vie des Palestiniens dans les camps de réfugiés au Liban. C'était avant Sabra et Shatila et tout ça, on n'en parlait pas beaucoup. Et donc elle m'a vraiment, à cette occasion-là, sensibilisé à la réalité de la vie, une des réalités de la vie des Palestiniens dans les camps de réfugiés. Et de fil en aiguille, c'est une question qui... que j'ai jamais abandonné en parallèle à d'autres engagements syndicaux, politiques, associatifs en France, parce que les choses sont pas scindées, se battre pour la Palestine et se battre pour le respect des droits, le respect de la liberté d'expression en France, c'est, pour moi, c'est le même, c'est quelque part la même chose. Voilà, alors après, plus ça va et plus au niveau mondial, un des risques, c'est que la gestion de la société, la gestion politique, soit calquée par le mode israélien aujourd'hui. Donc quelque part, tout converge quelque part dans cette lutte. Et après, est-ce qu'on est attaqué ? Bien évidemment, parce qu'on est sur un conflit très difficile. Que d'autres en France défendent beaucoup Israël malgré sa politique, et donc on est attaqué. Mais moi, j'ai l'habitude de dire j'espère qu'on sera de plus en plus attaqué, parce que ça voudra dire qu'on se battra de mieux en mieux et qu'on défendra de mieux en mieux les Palestiniens.
Claude Bardet, Denis Page, merci d'être venu jusqu'à nous. Bonne continuation et bonne suite de militance à tous les deux et au groupe local de France-Palestine Solidarité.
Merci.
Pour terminer, deux actualités rapides de l'AGLCA. Pour vous dire d'abord que le 15 septembre se tiendra la rentrée des associations, donc 130 associations sur le parking de la Vinaigrerie, avec des concerts, des démonstrations de skatepark, des démonstrations diverses et variées, un film en plein air le soir. Contactez vite l'AGLCA si vous voulez avoir un stand pour votre association le 15 septembre. Et puis la question égalité femmes-hommes, même dans le milieu associatif, la parité n'est pas atteinte. Et donc pour en parler et aborder le sujet, la GLCA vous prépare une petite soirée match d'improvisation, ou tout au moins autour d'une animation théâtrale, a priori pour le mois d'octobre 2018. Plus d'informations dans les semaines à venir. /1901/90, la radio des assos, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le mois prochain sur 90FM, les ondes de Radio B, ou en podcast sur le site internet radio-b.fr à la rubrique 1901/90, où vous retrouverez toutes nos infos. À bientôt.